Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Et bonjour Patrick.
Scénariste, dramaturge, romancier, essayiste, traducteur et même auteur de chansons et de livrets d'opéra, vous racontez vos ateliers, le livre paraît chez Odile Jacob, soit quelques notes concrètes et pratiques sur vos 65 ans de travail pour le théâtre et le cinéma, pour approcher non pas le mystère de la création, expression que vous n'aimez pas, vous la trouvez ridicule. Pourquoi, il n'y a pas de mystère?
Non, il n'y a pas de mystère, il y a du travail.
Du travail.
Il faut au départ un certain point de départ, une certaine idée d'une situation. Aristote le disait déjà. Il faut ce qu'on appelle un intérêt dramatique, c'est-à-dire une question dont nous attendons la réponse. Qui va gagner, qui va l'emporter, etc. Il faut ça au départ, il faut une situation. À part ça, tout peut se développer dans tous les sens que l'on désire. Quelquefois, ce qu'on a pris au départ pour une tragédie devient vite une comédie, et vice-versa, ça peut arriver.
Du travail, du sens de l'observation, du travail encore, de l'imagination,
oui,
et du travail.
Vous avez dit le mot très juste, sens de l'observation. Ça commence par la réalité, toujours.
Vous racontez comment certaines idées vous sont venues à des terrasses de café en compagnie,
oui,
de Pierre Etex.
Mon travail a commencé avec Pierre Etex et Jacques Tati.
Bien sûr.
À la terrasse d'un bistrot, on se met à la terrasse et on regarde. On regarde ce que la réalité nous apporte. Et Tati dit là... Dites donc, la bonne femme qui passe là-bas avec son sac ouvert, hein ? Vous avez vu ? Oui, j'ai déjà vu. Hein ? Et si un chien passait et pissait dedans, qu'est-ce qui se passerait, etc. Vous voyez, tout est possible. Tout devient, l'univers même devient un prétexte à un film de Jacques Tati ou de Pierre Etex.
Tout au long de ces travaux d'écriture, Jean-Claude Carrière, vous nous montrez, exemple à l'appui, comment vous inventez, comment vous adaptez. On va revenir sur le Cyrano avec Depardieu. Et comment vous coupez beaucoup et vous vantez les vertus du montage et de la coupe. Vous dites que personne ne regrette jamais aucune coupe, hein, dans un
Absolument,
film.
Absolument, personne. Jamais, ni au théâtre. Et c'est très curieux parce que dès le départ, j'ai commencé à faire du montage. J'ai même monté des films que je n'avais pas écrits. Et je demande toujours, quand j'écris un scénario, à pouvoir participer au montage, après. Parce que c'est une autre vision du film, et c'est une autre manière de le traiter. Et quelquefois, un montage peut détruire un film, ou au contraire, arriver à le perfectionner et à découvrir son secret. C'est très très intéressant.
Vous racontez aussi comment vous dialoguez un film presque sans dialogue, c'est l'histoire de La piscine de Jacques Deray, film mythique qui relance Romy Schneider, qui marque ses retrouvailles avec Alain Delon. Delon, Romy Schneider, Maurice René, Jane Birkin, qui échangent des regards davantage que des paroles.
Oui, il y a 9 pages de dialogue dans La piscine.
C'est pas
Et
beaucoup.
Cela vient d'une discussion avec François Truffaut, qui m'avait dit, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans Casque d'or, le film de Becker, que nous aimons tous beaucoup, il y a 7 pages de dialogue.
Ah oui.
C'est-à-dire très peu.
Avec Reggie Adler, Simone Signoret.
Oui, j'ai fait la même chose avec La piscine, j'ai 2 pages de plus. Bon, et c'était difficile parce que c'était un huis clos entre 4 personnages. Et Jacques Deray m'a dit cette phrase inoubliable. Il venait de faire un film avec Michel Audiard, qui était un ami que j'aimais beaucoup. Il m'a dit, quand tu tournes un dialogue d'Audiard, les mots sont les vedettes. C'est-à-dire tu es obligé de filmer les mots plus que les personnages. Toi, moins tu me mets de dialogue, plus tu m'obliges à avoir de l'imagination comme mettant en scène.
Alors, il y a quand même quelques lignes de dialogue, dont cette petite perfidie de Maurice René lors du dîner qui rappelle de cette façon-là, vous allez l'entendre, à Alain Delon, qu'il a eu une vie, lui aussi, avec Romy Schneider.
La cuisine vietnamienne, t'en comme ailleurs. Ah oui, les restaurants à Amsterdam, les restaurants indonésiens, superbes. Rappelle.
Il se tourne vers Romy et lui dit, oui, tu te rappelles. Ce qui, évidemment, est un coup de poignard pour Alain Delon, son ami, entre guillemets.
Vous dites, Jean-Claude Carrière, que parfois, quand vous avez un dialogue à écrire, vous imaginez au temps du cinéma muet.
C'est-à-dire, je me dis, quand j'ai une grande scène à écrire, je me dis, si j'étais en 1925, dans cette scène-là, quelles sont les 2 ou 3 répliques où je serais obligé d'avoir un sous-titre ? C'est-à-dire que je ne pourrais pas exprimer autrement que par des mots. Et je pars de ces 3 phrases-là, que j'en rajoute bien sûr parce que je peux, mais le moins possible.
C'est-à-dire comme les cartons du cinéma muet.
Exactement. On voit dans La piscine, par exemple, à quel point les regards, les démarches, tout peut remplacer des mots, c'est évident. Ça.
Jean-Claude Carrière nous dévoile ses secrets de fabrication et dans un instant pour Depardieu, Danton et Cyrano.
Europe 1. Comme chaque samedi, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine.
Avec Jean-Claude Carrière qui nous dit, pour paraphraser un livre célèbre, comment il a écrit certains de ses films et comment il a adapté des grands textes. Jean-Claude Carrière, vous rappelez le travail considérable qu'il a fallu pour transposer Cyrano de Bergerac au cinéma, pièce... évidemment,
pièce de théâtre, oui.
Pièce de théâtre très longue, elle dure 4 heures, qu'il vous a fallu raccourcir et modifier sans la trahir.
J'ai réécrit sans que jamais aucun Rostandien s'en préoccupe, à peu près 150 Alexandrins. Au quatrième acte de Cyrano, pour vous donner juste cet exemple, l'armée française est encerclée par les Espagnols à Arras. On ne peut pas sortir, ils crèvent de faim, ils n'ont aucun... Mais cependant, tous les matins, Cyrano va poster une lettre, soi-disant, à Roxane. Donc, il traverse.
Oui.
Comment ça se fait au théâtre? Ça se fait en coulisses. c'est facile. Mais au cinéma, vous ne le pouvez pas. Le cinéma est un art réaliste. Donc, vous ne pouvez... La caméra filme ce qu'elle voit. Donc, il fallait trouver une astuce pour qu'on a cherché des quantités de choses auxquelles j'avais pensé. Et un jour, quelqu'un a dit à Jean-Paul Rapneau, mais... au XVIIe siècle, le blé était de 40 cm plus haut qu'aujourd'hui. Donc on pouvait se cacher dans un champ de blé. Or, comme nous tournions un an plus tard en Hongrie, on a fait un champ en Hongrie qu'on a ensemencé avec des graines qui nous ont été prêtées par le Muséum d'Histoire Naturelle, qui avait gardé des graines de blé à condition, nous ont-ils dit, que vous nous les rendiez. Et alors, on a attendu tout l'hiver pour savoir si ce blé allait prendre. Au mois de mars, on a vu des jolies petites pousses qui apparaissent. La moisson était formidable, le blé. Et ça a même fait l'affiche du film.
Ouais.
Et Cyrano pouvait se glisser entre les épis et ne pas apparaître. Et on a rendu au Muséum d'Histoire Naturelle 3 fois plus de graines parce qu'on a moissonné que ce qu'il nous avait prêté.
Histoire extraordinaire. Et oui, puis, dans l'adaptation que vous avez imaginée, écrite, un petit miracle, quand Cyrano reprend lui-même sa tirade des cadets de Gascogne.
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, menteurs et bretteurs. Bretteurs et menteurs, sans vergogne, tous plus nobles que... Plus nobles que des filous. Parlons baston.
Parlons blason, lambelle, bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux.
Cyrano qui reprend sa tirade, sa réplique. Ça, c'est pas dans la pièce de Rostand.
Non, alors, mais ça a une histoire.
Voilà.
C'est-à-dire que quand le scénario a été écrit, on l'a fait lire à un Rostandien, quelqu'un qui sait tout sur Cyrano. Il nous a dit, mais comment vous est venue cette idée? Et je lui ai dit, voilà, parce que ça nous a paru invraisemblable que ce soit quelqu'un qui présente au lieu de Cyrano, qui est le poète du régiment, les soldats au colonel qui vient les visiter. Et il nous a dit, mais vous savez que c'était comme ça dans le manuscrit d'Edmond Rostand. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que pendant la répétition, Coquelin Cadet, qui jouait Cyrano, a dit, ça c'est trop beau, je le prends pour moi.
Oui.
Ouais, donc on rétablissait en quelque sorte justice à Edmond Rostand, longtemps après sa disparition.
Gérard Depardieu, encore dans le Danton de Vajda. Ce film, je le sais, est l'une de vos grandes fiertés, Jean-Claude Carrière. Là aussi, il vous a fallu inventer les paroles de Danton devant le tribunal révolutionnaire qui va le conduire à l'échafaud. Les paroles et la voix de Gérard Depardieu.
Malheur aux hommes forts et aimés du peuple. Longue vie aux médiocres, taciturnes, amers dans la solitude de leur bureau. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants.
Et la voix de Depardieu, Danton, qui
ça,
se casse.
Ça, c'est historique. Danton, qui comptait beaucoup sur sa voix pour se sauver, a perdu sa voix au moment de sa plaidoirie. Et beaucoup de gens ont été persuadés qu'il l'avait vraiment perdu pendant le tournage.
Depardieu.
Depardieu. Ouais. Ce qui est pas vrai, il le joue. Mais il le joue tellement bien. C'est un moment extraordinaire. C'est un plan qui dure 8 minutes, ce qui est très très long, au point que je n'avais jamais vu ça. À la fin de la première prise, tous les figurants ont applaudi.
Ouais. Et vous racontez comment, avec le réalisateur, vous écoutez ensuite Depardieu au oui. casque. Vous écoutez sa
voix,
sa partition.
Pour le plaisir, il n'y avait rien à doubler. On était à la Garenne Colombe en train de faire les doublages des acteurs polonais. Et l'ingénieur du son nous a dit, enfin, allez, on va se faire un petit plaisir. Et on a écouté toute la tirade, rien que pour ça, où il n'y avait rien à doubler.
Autre immense acteur, autre éloquence, celle de Jean-Louis Trintignant dans La Controverse de Valladolid. Les Indiens d'Amérique font-ils partie du genre humain et du royaume de Jésus? Devons-nous les convertir de force pour le salut de leur âme? Réponse de Sepúlveda Trintignant.
Que vaut-il mieux? Une vie terrestre sans gloire, dans l'erreur et dans le péché, suivie d'une éternité de souffrance, ou bien une vie plus courte, plus dure peut-être, et plus vite frappée par la mort, mais suivie d'une éternité de lumière auprès du vrai Dieu vainqueur? Est-il quelqu'un ici qui ne connaisse pas la juste réponse?
Jean-Louis Trintignant dans La Controverse de Valladolid. C'est là, dites-vous, Jean-Claude Carrière, qu'un auteur se doit de penser contre lui-même.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire de donner à celui dont il ne partage pas l'opinion les meilleurs arguments possibles. Or là, que vaut-il mieux, une vie terrestre pauvre suivie d'une éternité de lumière, comme il s'adresse uniquement à des ecclésiastiques qui tous ont la foi et la même foi que lui, il sait que cet argument est sans réplique. Personne ne peut dire le contraire, et Lascaz ne pourra s'en tirer que par l'émotion. Après ça, Lascaz se met en colère, jette les papiers, parce que, au point de vue de ce qu'on appelle l'argumentation en matière d'avocat, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a les meilleurs arguments, c'est Sepúlveda.
Et Valladolid, la pièce et le film servent aujourd'hui de modèle, de référence aussi pour à la fois l'art oratoire et pour la...
Oui, paraît qu'on l'étudie à la faculté de droit.
Dans votre atelier, dans vos ateliers, Jean-Claude Carrière, il y a le travail avec de très grands metteurs en scène, Buñuel, Peter Brook, Pierre Etex, Louis Malle, Milos Forman, Godard, Rapneau, deux Palmes d'Or à Cannes, faut-il le rappeler, le Tambour de Schlöndorff, et le ruban blanc de Haneke.
Deux films allemands.
Oui, en langue allemande.
Qui est une langue que je ne parle pas.
Il y a aussi vos échanges avec les acteurs. Par exemple, sur le scénario d'Un papillon sur l'épaule, un homme ordinaire pourchassé, traqué, sans raison apparente. Lino Ventura veut savoir. Il vous interroge sur le mystère du film.
C'est-à-dire, il y a une valise qu'il faut transporter. Il y a quelque chose dans cette valise
une
que
manette.
Personne n'arrive
oui.
à... Une manette n'arrive à ouvrir. Et il voulait absolument savoir ce qu'il y avait dedans. Or, tout le principe du film, c'est de ne pas le savoir. Jamais, jusqu'à la fin. Alors, un jour, pour m'en tirer, je discutais avec lui, chez lui. On avait souvent de longues discussions. Je lui ai dit, écoute, Lino, je vais te dire le secret. Tu sais ce qu'il y a dans la mallette? Il me dit, non, il y a le scénario. Ça l'a tellement surpris qu'il a accepté tout de suite.
Formidable. Vous parlez aussi de vos échecs, de vos rares moments de découragement. Et dans ces instants-là, vous pensez à un souvenir merveilleux, un instant de nuit avec Rudolf Nureyev et Sylvie Guilhem.
Ça, c'est quelque chose d'inoubliable. J'étais très ami avec Nureyev. Et un jour, il y avait Le Jeune et la Mort, donc le ballet mis en scène par Jérôme Robbins, qui était venu pour cela. À l'opéra, avec Sylvie Guilhem, qui est la plus grande danseuse française du XXe siècle. Et après ça, on était invités à un petit dîner à l'opéra, on était 7 ou 8, et moi j'étais à la table de Rudolf, mais pas à celle de Sylvie Guilhem. Je demande à Rudolf, qu'est-ce qu'elle peut encore gagner? Et il me répond, ce que gagne un vieux vin en vieillissant. Et après ça, il était déjà 1h du matin, il a demandé à Sylvie de venir chez lui, parce qu'il avait quelque chose à lui montrer. Je leur ai demandé, est-ce que je peux venir? Oui, alors on est allés tous les trois chez Rudolf. Il avait une cassette d'une grande danseuse anglaise avec laquelle il avait travaillé, et il voulait juste montrer à Sylvie Guilhem un mouvement de main, un mouvement de bras et de main très particulier qu'avait Margot Fontaine. Donc, Ils sont restés, mais une heure et demie, tous les deux, assis par terre, absolument passionnés, jusqu'à 3 heures du matin, à regarder ce geste et à essayer de le faire. Ça, c'est pour moi, c'est un exemple de passion du travail, de passion de son art, que dans mes moments de découragement, je me rappelle.
Le travail, et encore le travail. Et pour terminer, vous citez Flaubert.
Le danger, c'est de conclure. Il ne faut pas conclure. Donc, nous ne conclurons pas.
Merci, Jean-Claude Carrière. Merci, vraiment, jeune homme de 88 ans.
Oui.
Atelier vient de paraître chez Odile Jacob.
Merci. Atelier avec un S. Hein.
Merci à vous. Europe 1.